Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Vortès
107 FM.
Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs de Radio Bartas 107FN, bienvenue dans l'émission Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Salut Virginie, salut Émeric.
Bonjour.
Alors, voilà, on vous rejoint pour une nouvelle émission. On vous fait un petit rappel. Le 13 mai, samedi 13 mai, qu'est-ce qui se passe à Bar des Cévennes? Eh bien, il se passe la fête de la forêt. Donc, il faut que vous y soyez, bien sûr. On vous attend toutes et tous. Et avec plaisir. Donc, c'est le PETRC de Lozère qui organisera cette fameuse fête de la forêt. Et on accueille aujourd'hui aussi, pour la première fois, Arthur, nouveau technicien son de Radio Bartas. Bonjour Arthur.
Bonjour, bonjour à vous. Comment ça va?
Ça va bien. Et voilà, et donc pour ce nouveau sujet de Palabre en forêt, Émeric.
Eh bien, je vous propose d'accueillir Serge, que j'ai rencontré à l'occasion sur le Mont Lozère, là où je travaille, avec ses étudiants, en train de faire des trous dans la tourbière du Mont Lozère. Il va nous expliquer pourquoi. Allô Serge, tu nous reçois?
Je vous reçois 5 sur 5.
Serge Muller, vous êtes donc enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et chercheur à l'Institut des sciences et évolution de Montpellier. Et du coup, bah, j'aimerais vous demander tout d'abord quel est votre métier, en quoi il consiste?
Alors, je suis, comme vous l'avez dit, enseignant-chercheur. Donc, j'ai une partie de mon activité qui consiste à enseigner à des étudiants la botanique et l'écologie végétale, depuis la licence jusqu'au doctorat. Et puis, j'ai une deuxième activité qui est l'activité de recherche, où là, je travaille au sein de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, et qui est un laboratoire, en fait, un grand laboratoire d'écologie, d'évolution et de paléo-environnement. Et moi, je travaille dans un département qui étudie les paléo-environnements. Donc, on travaille sur l'histoire des végétations, sur l'histoire de l'homme, comment il influence les milieux naturels, comment il influence certaines espèces en les domestiquant. Il y a des gens également qui travaillent sur l'évolution des climats. Voilà, donc on est dans toute une équipe qui travaillons sur ces thématiques. Et moi, je m'intègre là-dedans et je travaille plus sur moi sur l'histoire des végétaux et notamment dans la région des Cévennes. Je suppose qu'on va parler un peu plus de ça.
Oui, tout à fait. Et en parallèle de cette activité, cette première activité, vous êtes aussi auteur et illustrateur?
Oui, j'ai aussi une petite activité d'auteur-illustrateur jeunesse, où je travaille, enfin je réalise des livres avec ma compagne, des livres pour enfants, qui sont publiés aux éditions des écologistes de Lozère. Pour l'instant, on a trois petits albums qui traite de cycles de vie d'espèces animales et végétales. Donc on en a fait un sur la libellule, un sur l'hirondelle et un sur le myosotis. Et on est en train d'en préparer un sur le genévrier, sur une histoire sur le long terme. Voilà.
Merci. Et alors, comment êtes-vous arrivé en fait à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier?
Alors je fais des études à Marseille et j'ai terminé mes études par une thèse en co-direction entre Marseille et Montréal. Et j'ai travaillé sur une tourbière à Montréal que j'ai étudiée pour son histoire, qui remontait à plus de 10 000 ans, donc à la fin de la dernière glaciation. Et à la suite de ma thèse, j'ai candidaté sur un poste qui s'ouvrait à l'Université de Montpellier. Et j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai eu. Et donc depuis, depuis je suis à l'Institut des sciences de l'évolution et j'enseigne et je fais de la recherche à l'Université de Montpellier.
Si je reviens au contexte cévenol, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons pour lesquelles je t'avais rencontré sur une tourbière du Mont-Lozère avec tes étudiants ?
Alors effectivement, on s'est rencontrés même avant dans la vallée du Galaison.
C'est vrai.
On fait depuis maintenant une quinzaine d'années on gère un module de terrain d'enseignement par la recherche où on amène des étudiants sur des sites. On leur montre, c'est des petits groupes, hein, des petits groupes de 10-15 étudiants. On leur montre la manière dont on travaille sur le terrain, dont on récolte le matériel que l'on va étudier. Et ensuite, ces étudiants, pendant un semestre, une journée par semaine, sont avec nous au laboratoire et découvrent les méthodes d'analyse de ces sédiments qui renferment des fossiles. On étudie donc ces fossiles avec eux et à la fin de ce travail, ils doivent rédiger un petit mémoire présentant leurs résultats. Et alors on a fait des sessions dans différents endroits, mais on en a fait un dans la vallée du Galaison il y a quelques années. Et puis récemment, on a fait deux sessions sur le Mont-Lozère où on t'a retrouvé avec nos étudiants pour faire cette session de terrain de 3 jours qui inaugure ce module.
Et est-ce qu'on peut vous demander, parce que du coup on imagine qu'il n'y a pas de tourbière dans le Galaison.
Et ah oui.
Voilà, donc c'est les fossiles que vous aviez étudiés dans le Galaison, c'est ça ?
Alors dans le Galaison, on avait pas travaillé sur des enregistrements fossiles, on avait fait du référentiel actuel. Donc on avait travaillé sur des dépôts actuels pour caractériser le lien entre les fossiles et l'environnement actuel. Donc ça, c'est une part du travail qu'on réalise en général avant d'attaquer l'analyse paléo-environnementale proprement dite. Il faut connaître la relation entre l'enregistrement fossile et les communautés, alors c'est surtout des communautés végétales que l'on étudie nous, et les communautés végétales qui les produisent. Et une fois que ce lien est connu, après on peut interpréter le fossile en termes de végétation passée.
D'accord.
Alors effectivement, dans le Galaison, on avait fait uniquement la partie référentielle actuelle.
Donc référentielle actuelle, c'est la végétation actuelle, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et comment elle s'enregistre, en fait, dans les sédiments de surface, là, du coup. Quels restes elle va laisser, cette végétation ? Dans quel état vont être ces restes ? Puisque, en fait, le processus de fossilisation entraîne une perte de matériel. Donc on a des enregistrements qui sont parcellaires, en partie biaisés. Et du coup, ben l'étude de l'enregistrement actuel permet de quantifier, de connaître ces biais de l'enregistrement fossile.
Et du coup, quand vous parlez d'enregistrement partiel, etc., est-ce que vous travaillez sur l'étude de l'ADN des fossiles ou plutôt sur des analyses visuelles ?
Oui, c'est possible de travailler sur l'ADN, mais nous, on ne le fait pas. Par contre, on travaille sur des micro-fossiles. Alors, on peut travailler aussi sur des macro-fossiles, donc des restes plus ou moins gros. Pour les micro-fossiles, on est obligé d'utiliser un microscope hein, pour les étudier. Les macro-fossiles, on les étudie en général sous une loupe un peu puissante. Alors on va retrouver des restes de feuilles, des restes de bois, on peut retrouver des charbons, on peut retrouver des graines, des fruits. Tout ça c'est identifiable avec une part de restes qui vont demeurer inconnus parce qu'ils sont trop abîmés ou qu'ils ne sont pas dans nos référentiels. Et puis dans les microfossiles, le microfossile le plus étudié c'est le pollen. Et le pollen va, on est capable de l'identifier, on le compte pour avoir des abondances relatives. Et avec ça, on est capable de reconstituer la végétation qui occupait les lieux dans le passé.
Et pour revenir du coup aux tourbières du Mont-Lozère, moi j'avais retenu quelques chiffres que j'avais trouvé très intéressants, notamment que vous aviez trouvé déjà une profondeur maximale de 3 mètres sur la tourbière du Péchiot de Sagne, que certains ne connaissent pas, mais qui est sur le nord-ouest du Mont-Lozère. Et sur ces profondeurs de 3 mètres, vous atteignez moins 15 000 ans, c'est bien ça ?
Alors sur le Péchiot, non, on n'a pas atteint cette date. Cette date, on a des âges autour de 13, 14 000, peut-être 15 000 sur les nacettes.
Ah oui, c'est ça.
Sur le Péchiot, on était autour de 10 000, je crois. Donc elle est un peu plus récente. Mais ça reste un âge très, très impressionnant quand même.
Oui, ça veut dire que les plus anciens traces fossiles qui se sont enregistrées dans les tourbières du Mont-Lozère ont presque 15 000 ans.
Ont presque 15 000 ans, oui, tout à fait. Alors c'est un âge qui est un peu exceptionnel. Hein, jusqu'à nos travaux, jusqu'à nos petites études, là, les âges les plus anciens qui étaient connus sur le Mont-Lozère, c'était 10 000 ans, sur les nacettes, justement. Et là, on a obtenu une carotte plus ancienne, donc c'est un peu un scoop. Pour l'instant, la carotte n'a pas encore été étudiée de manière fine. On a fait une pré-étude avec les étudiants. Mais voilà, on a un enregistrement qui est plus ancien que ce qui était connu jusqu'à présent, et donc on a des périodes qui sont pour l'instant inconnues sur le Mont-Lozère et qu'on a potentiellement dans de la tourbe. Là, il ne nous reste plus qu'à l'étudier.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous arrivez à déterminer les âges ?
Alors l'âge se détermine par mesure radiocarbone, le carbone 14. C'est un carbone qui est c'est un isotope du carbone qui est radioactif, qui est présent dans l'atmosphère, qui est produit en haute altitude par le rayonnement cosmique. Et qui est piégé dans la végétation, qui est capté par les plantes lors du processus de la photosynthèse, donc il est intégré dans la biomasse végétale, et c'est un isotope qui est instable. Donc une fois qu'il est piégé dans la biomasse, il va se dégrader, se détruire petit à petit avec une vitesse qui est connue. Et donc, quand on a du matériel organique fossile, on l'envoie à un laboratoire qui mesure la quantité de carbone 14 qui reste. Et avec cette quantité restante, quand on connaît la quantité de départ, eh bien, on peut savoir le temps qui s'est écoulé et donc mesurer l'âge de cette matière organique.
On vous propose une petite pause musicale, chers auditeurs et auditrices. Serge Muller, il me semble que vous avez une suggestion à nous faire.
Oui, eh bien, j'avais pensé à un titre de The Animals qui a été écrit d'abord pour Nina Simone et qui a été repris par The Animals avec une version un petit peu plus dynamique. Je ne vais pas le prononcer parce que j'ai un accent anglais terriblement mauvais. Je vais vous laisser le prononcer vous-même.
Bien joué. Eh bien, on va tout de suite écouter Don't Let Me Be Misunderstood, donc de The Animals. Baby, do you understand?
understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to change. Problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish things, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Serge, t'es toujours là?
Je suis toujours là.
Très bien. Du coup, j'enchaîne sur une question par rapport, puisqu'il faut quand même revenir un peu au fil directeur de notre émission qui concerne bien la forêt et le bois. Et je me t'ai dit, est-ce que tu serais capable de nous faire un petit résumé, on va dire, des 10 derniers milliers d'années sur, en gros, les principales essences forestières qui poussaient autour du mont Lozère, sans faire un détail très, très précis, mais quelles étaient les essences, finalement, sur le mont Lozère ces 10 derniers milliers d'années?
Alors, en fait, pour commencer vraiment l'histoire au début, il faut remonter un petit peu avant. La dernière glaciation, elle se termine pendant une période qu'on appelle le tardiglaciaire, entre 18 000 et 12 000 ans avant aujourd'hui. À cette époque-là, en fait, toute la région et toute la France même était occupée par des steppes. Dans ces steppes, on trouvait quelques espèces ligneuses, hein, notamment des genévriers et des bouleaux. Il y avait aussi des pins qui étaient curieusement peu abondants dans le Massif central et notamment sur le mont Lozère. Donc les premiers arbres, en fait, étaient surtout des bouleaux qui ont occupé la zone. Et puis, avec le réchauffement climatique de la fin de la glaciation, donc aux alentours de 12-11 000 ans, on a les premiers végétaux thermophiles qui sont arrivés, les premiers végétaux tempérés, si vous voulez. Et le premier a été le noisetier, qui a formé des forêts probablement assez ouvertes, mais des forêts extrêmement étendues dans tout le Massif central et dans une grande partie de l'Europe pendant plusieurs milliers d'années. Dans le Massif central, le noisetier a probablement dominé entre 11 000 ans et 6 7 000 ans avant aujourd'hui. Il a été au début, il était relativement seul, et puis les chênes caducifoliers qui se sont mêlés à cette forêt de noisetiers, puis qui ont fini par la supplanter. Le chêne, il y a 7-8 000 ans, a constitué une forêt caducifoliée mature, avec du tilleul, du frêne, de l'orme, et puis des noisetiers. Et ces forêts caducifoliées ont laissé la place assez rapidement, autour de 5000 ans, à la hêtraie sapinière, qui est la formation qui domine aujourd'hui l'étage montagnard de tout le Massif central. Alors sur le Mont Lozère, c'était surtout le hêtre qui a joué un rôle important, avec le sapin qui était présent mais qui jouait sans doute un rôle secondaire, alors que dans d'autres régions, ça a été l'inverse. Alors ça, c'est une histoire qu'on comprend pas encore totalement bien. On pense que le changement entre la chênaie caducifoliée et la hêtraie sapinière est probablement lié à des activités humaines qui ont modifié les équilibres compétitifs entre les espèces arborescentes. Et puis, cette histoire forestière, le hêtre et le sapin ont subi au cours des 4000 dernières années des coupes, des interventions humaines plus ou moins fortes selon les périodes, avec notamment la période romaine et le Moyen-Âge féodal, qui ont été des périodes d'intense déforestation, jusqu'à aujourd'hui en fait, ou enfin jusqu'à la révolution industrielle, qui a été un point de bascule, avec des paysages très ouverts, donc des forêts qui étaient très peu présentes, mais la déprise agricole et l'exode rural qui ont accompagné la révolution industrielle sont traduits par un abandon des terres, et notamment des terrains de montagne, avec un reboisement qui a été mais que c'est fait naturellement. Il y a des essences qui sont des espèces forestières qui sont revenues d'elles-mêmes, et il y en a beaucoup qui ont été aussi replantées par les travaux de restauration des terrains de montagne, notamment sur le Mont Aigoual, avec une histoire qui est l'histoire de Fabre et de Flao, qui est bien connue. Sur le Mont Lozère, ça a été un peu moins organisé, et donc sur le Mont Lozère, en fait, on a plutôt des pins qui sont revenus à ce moment-là, qui ont été en grande partie plantés et qui dominent aujourd'hui le massif.
Et y a-t-il d'autres... Alors, vous nous avez expliqué finalement que le hêtre, la hêtraie sapinière, oui, peut-être qu'on ne connaît pas totalement l'origine de sa présence. Est-ce qu'il y a d'autres essences qu'on a aujourd'hui et dont l'origine est encore mal connue?
Alors l'origine, en fait, elle n'est pas si mal connue que ça. Ce qui est mal connu, ce qui est mal compris, c'est surtout le rapport entre les deux espèces. Pourquoi il y en a une qui va dominer l'autre à certains endroits et pas à d'autres. L'origine de toutes ces espèces, en fait, vient de leur migration après la glaciation. Pour le noisetier et le chêne, qui avaient des refuges assez proches en fait des Cévennes, probablement dans le sud de la France et puis dans les péninsules ibériques et italiennes, l'arrivée a été très rapide après la glaciation. Pour le hêtre et le sapin, ça a été beaucoup plus compliqué. Eux, ils sont revenus de l'Est, des pourtours de la mer Noire, du nord de l'Adriatique. Et ils ont migré de l'est vers l'ouest, et cette migration a été ralentie par les forêts déjà présentes, qui étaient du coup en compétition avec eux. Donc le hêtre et le sapin ont mis beaucoup plus de temps à revenir. Ils sont arrivés dans les Alpes autour de 10 000 ans, et ils ont pénétré dans le Massif central probablement autour de 8 000 ans, dans ces eaux-là. Et comme les forêts de chênes étaient à ce moment-là relativement bien développées, bien le hêtre et le sapin ont eu du mal à s'implanter. Donc ça les a ralentis. Et ils ont été favorisés par les activités humaines qui ont fait de la place, modifié, comme que je disais tout à l'heure, les équilibres compétitifs. Et du coup ont favorisé un mélange de ces espèces.
Merci. Et c'est vrai, vous nous avez parlé de forêt de noisetiers. Ça nous paraît incroyable par rapport à la végétation actuelle. Et est-ce que vous pensez peut-être que justement cette végétation ancienne peut nous apporter aujourd'hui des enseignements par rapport au dérèglement climatique, des choses comme ça?
Alors, oui, il y a... il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer. Alors sur le passé déjà, on a des végétations comme ces forêts de noisetiers qui sont des végétations qui n'ont pas d'analogue actuel. Ce sont des végétations qui ont existé dans le passé mais qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on a du mal à se les imaginer vraiment. Hein. On a des, alors nous on les voit sous forme de graines pollen dans les sédiments. On a des taux de pollen de noisetier extrêmement importants, des pourcentages de pollen de noisetier extrêmement importants qui n'ont plus d'équivalent aujourd'hui. Donc on ne peut pas se représenter réellement ce qu'étaient les paysages à ce moment-là. Après, pour ce qui est de l'avenir du réchauffement climatique, là on a des périodes qui peuvent servir de référentiel. C'est notamment la fin de la glaciation, avec des changements très brutaux, très rapides de climat qui ont engendré des modifications de végétation également très rapides. Et donc ça, c'est des périodes qui sont étudiées comme analogue possible de des changements qui sont en cours aujourd'hui. Mais voilà, avec la différence que à l'époque, c'était quand même des changements qui étaient naturels, sur des végétations qui étaient naturelles. Et aujourd'hui, on a des végétations qui sont très fortement impactées par l'homme, qui sont du coup affaiblies, les équilibres naturels ne sont plus vraiment à l'œuvre. Et du coup, pour envisager les changements que le climat peut induire sur la végétation, ça reste très compliqué par rapport au passé.
Pour finir, ou du moins pour conclure, on voulait vous demander, du coup, plus globalement sur vos questions de recherche, quelle est la question de recherche qui vous a le plus stimulé, ou alors quelle est la question à laquelle vous souhaiteriez le plus répondre dans vos différents programmes de recherche?
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la conservation et l'histoire. Je travaille beaucoup sur des milieux humides parce que c'est des milieux qui enregistrent l'histoire de la végétation et qui enregistrent également leur propre histoire. Et donc, à travers l'étude paléo-environnementale, on peut reconstituer les dynamiques internes d'une tourbière, par exemple, comme celle du Mont Lozère, et essayer de voir en quoi les activités humaines ou le climat ont modifié ces végétations au cours du temps pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a un bon nombre de milieux qui sont aujourd'hui des tourbières ouvertes, dominées par des sphaignes par exemple, et qui dans le passé ont été des tourbières boisées, dominées par des bouleaux ou des aulnes. Et c'est l'activité humaine qui a transformé ce milieu pour en faire des tourbières, les tourbières qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, ce type de reconstitution amène une question qui est qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège des milieux naturels ou est-ce qu'on protège des milieux anthropisés? Et donc, si on veut protéger du milieu anthropisé, on protège dans ce cas-là ce qu'il y a aujourd'hui. Si on veut protéger un milieu plus naturel, mais dans ce cas-là, il faut peut-être laisser se reboiser certains milieux pour retrouver les milieux qui existaient il y a quelques milliers d'années ou quelques siècles.
C'est juste révolutionnaire ce que vous nous dites, parce que, de, par exemple, on a nos collègues des sites Natura 2000, voilà, dans les milieux qu'ils protègent, et notamment les milieux humides, les tourbières, justement, quand ça commence à se reboiser, eh bien, ils donnent comme recommandation plutôt de déboiser pour préserver les tourbières.
Alors du coup, si je peux intervenir sur ce point, parce que c'est vraiment un sujet pile poil d'actualité, hein, le fait de redonner de la place à l'arbre dans la gestion des milieux naturels, ça devient carrément une évidence, parce qu'aujourd'hui tout le monde se gare à l'ombre et recherche l'ombre, et y compris le bétail en été, il recherche à plutôt pâturer de l'herbe qui est à l'ombre et qui est plus appétante. Donc ça devient une évidence que l'arbre va avoir plus d'importance dans la gestion des milieux, et il faut lui redonner beaucoup plus de place qu'il en a eu jusqu'à maintenant. Et on a plein d'arguments patrimoniaux au niveau naturel pour dire que les forêts boisées, mais également en partie pâturées, vont apporter des espèces intéressantes. On a par exemple des mousses qui sont spécialisées sur les bouses de vaches sur des contextes de tourbières, et également on va avoir des mousses qui vont être spécialisées sur le bois pourrissant dans des contextes de tourbières. Donc dans les deux cas, c'est ni tout noir tout blanc. Je pense que c'est un contexte où on peut laisser le bétail continuer à pâturer, mais en accordant beaucoup plus de place aujourd'hui à l'arbre.
Les arbres sont nos amis.
Ah, ça c'est sûr. Si c'est une conclusion à tirer de l'intervention, ça peut être ça. Mais tu voulais continuer à intervenir, Serge ?
Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, de toute façon, ce qui fait la richesse d'un territoire, c'est plus une mosaïque de milieux que d'avoir une homogénéité, que ce soit que des milieux ouverts ou que des milieux fermés, c'est pas bon. L'important, c'est si on veut favoriser la biodiversité, c'est d'avoir des mosaïques de milieux avec des milieux riches et mixtes, avec des zones ouvertes, des zones fermées, des milieux en dynamique.
Et moi, je retiens une idée de ton intervention, c'est que le paradis des écureuils, c'était entre moins 11 000 et moins 7 000. C'était quand il y avait des forêts de noisetiers. Ils devaient être très contents, les écureuils. Est-ce que tu serais partant pour nous délivrer ton petit mot forestier, c'est-à-dire ton petit coup de cœur sur la forêt en général?
Alors, oui. La notion de forêt pour un paléo-environnementaliste, un paléo-écologue comme moi, c'est sûr que c'est pas la même chose que pour un actualiste. Moi, les forêts, je les vois à l'aune de mes enregistrements fossiles, et donc j'imagine des forêts dans le passé, des forêts extrêmement imposantes, puissantes, diversifiées. Alors j'ai quelques images en tête, hein, la forêt de Białowieża par exemple, qui est la dernière forêt primaire d'Europe, les forêts nord-américaines qui sont des forêts impactées par l'homme mais depuis seulement quelques siècles, donc qui ont gardé une richesse et une diversité beaucoup plus importante que nos pauvres forêts européennes. Et avec ces images, j'arrive à me faire une idée de ce qu'ont pu être les paysages de nos régions, et notamment des Cévennes, pendant tout le début de l'Holocène, le début des derniers 10 000 ans, hein, entre 10 000 et 5 000 ans avant aujourd'hui, où l'homme avait encore peu imprimé sa marque. Quand je m'imagine ces paysages forestiers, ça me fait voyager. C'est un voyage dans le temps, alors qui est un peu triste quelque part, puisque ces paysages, on ne les reverra plus. Je me dis que peut-être en laissant évoluer la végétation, ils reviendront un jour. Et moi, c'est un des souhaits que j'ai, hein, c'est de que les gestionnaires des milieux naturels prennent conscience de l'importance de laisser sur le long terme évoluer naturellement les écosystèmes et de régénérer lentement peut-être, mais au cours des dizaines, des centaines d'années qui viennent, de laisser évoluer des portions de paysage, des petites zones qui permettront peut-être de faire renaître ces forêts du début de l'Holocène. Voilà.
Merci Serge Müller de nous avoir emmené voyager avec vous dans le temps. À bientôt.
À bientôt.
Merci, merci beaucoup Serge.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès